Bonjour, chers frères. Commençons aujourd'hui par une question, et peut-être pouvez-vous prendre une seconde pour y réfléchir, mais qui sont les personnes les plus fortes que vous connaissez? Qui sont les personnes les plus fortes que vous connaissez? Si vous posez la question à un petit garçon, il dira peut-être son père et vous racontera une histoire, un grand tour de force qu'il a vu son père accomplir. Et son père n'a pas démenti que ce n'était pas nécessairement un grand tour de force, mais demandez à un petit garçon, vous entendrez probablement son père. Si vous grandissez un peu et que vous prenez conscience des événements de l'histoire, des personnages historiques vous viendront peut-être à l'esprit. Winston Churchill, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu son discours, Nous les combattrons sur les plages. Je vais en lire un extrait, vous vous en souviendrez, nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et les océans. Il a mobilisé un peuple qui a essentiellement stoppé l'expansion du Troisième Reich. À lui seul, cet homme a probablement fait plus que quiconque pour arrêter la conquête d'Hitler. Nous nous battrons avec une confiance et une force croissante dans les airs. Nous défendrons notre île quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais, et même si, ce que je ne crois pas un instant, cette île ou une grande partie de celle-ci était soumise et affamée, alors notre empire au-delà des mers, armée et gardée par la flotte britannique, poursuivrait la lutte jusqu'à ce que, au moment voulu par Dieu, le Nouveau Monde, avec toute sa puissance, s'avance pour sauver et libérer l'ancien. Finalement, l'Amérique est intervenue, mais il s'agissait d'une formidable démonstration de volonté, d'une formidable démonstration de force, d'une démonstration de force qui a changé les cours de l'histoire. Winston Churchill était un homme doté, pourrait-on dire, d'un esprit invincible. Pensons plus récemment à l'histoire américaine. Nous avons actuellement à la Maison Blanche un homme qui a polarisé le pays. Il y a beaucoup d'opinions à son sujet, mais indépendamment de ce que l'on pense de lui, lorsqu'on lui a tiré dessus à Butler, en Pennsylvanie, les gens ont pensé que le président avait peut-être été assassiné, l'ancien président de l'époque. Lorsqu'il s'est levé, a levé le poing en l'air et a dit Fight, fight, fight après avoir été touché, c'est l'un des grands moments de l'histoire américaine. Une formidable démonstration de force, une formidable démonstration de courage. Peut-être pensez-vous au récit biblique, à Samson ou à David. Je pense à Josué, au chapitre 1 de Josué, car nous continuons à mettre en place ce projet, le chapitre 1 de Josué. Josué me vient à l'esprit en raison de ce que Dieu lui a dit et de ce qu'il a fait. Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour aller dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué avait attendu ce jour, ce grand moment où les Israélites entreraient dans la terre promise, pendant les 40 années passées avec eux, et Dieu lui avait donné des instructions très précises. Tous les lieux que foulera la plante de ton pied, je te les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au coucher du soleil, sera votre côte. Il n'y aura pas d'homme capable de se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. car c'est à ce peuple que vous donnerez en héritage le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, mais ce n'était pas suffisant. Dieu voulait souligner ce besoin de force, ce besoin de courage. Seulement, soyez forts, verset 7, et ayez beaucoup de courage, afin d'observer et de mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin de prospérer partout où vous irez. Ne vous contentez pas d'être fort face à l'adversité. Dieu lui dit d'être fort pour garder mes commandements, car nous savons que c'est beaucoup plus difficile que de faire une démonstration de force physique. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est ainsi que tu feras prospérer ta voie et que tu auras du succès. Ne vous ai-je pas donné cet ordre? Voici la troisième fois. Sois fort et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Puis au verset 18, voici une quatrième fois. Quiconque se rebellera contre ton commandement et n'écoutera pas tes paroles et tout ce que tu lui ordonneras, sera mis à mort. Seulement, sois fort et courageux. C'est le début du leadership de Josué. Dieu lui dit encore et encore, quatre fois en un seul chapitre, d'être fort et courageux. Il lui dit de ne pas avoir peur. Lui disant de ne pas s'écarter de la loi de Dieu. Comment cela se termine-t-il? Au chapitre 24. Chapitre 24. Au verset 14. Cet homme de Dieu a-t-il pris ses instructions à cœur? Bien sûr, il l'a fait. Nous connaissons la suite. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel, dit Josué aux Israélites vers la fin de sa vie. Des décennies se sont écoulées. Craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et vérité. Abandonnez les dieux que votre père a servis de l'autre côté du déluge et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si tu trouves mauvais de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui celui que tu serviras. Ce sont les instructions d'un homme de grand courage que Dieu a encouragé quatre fois au début de son ministère, pourrait-on dire. Que ce soit les dieux que votre père a servis de l'autre côté du déluge ou les dieux des Amoréens dans le pays où vous habitez, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, dit cet homme plus que centenaire à ce moment-là. Le peuple répondit, « À Dieu ne plaise que nous abandonnions le Seigneur, que nous abandonnions le Seigneur pour servir d'autres dieux. Car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui a accompli ses grands prodiges sous nos yeux, qui nous a préservés dans tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples que nous avons traversés, et qui a chassé devant nous tous les peuples, même les Amoréens qui habitaient le pays. C'est pourquoi nous servirons le Seigneur Dieu, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous ne pouvez pas servir l'Éternel. » Il savait à quel point la barre était haute. Il savait ce que cela signifiait d'être converti et de servir Dieu. Il regarde cette nation charnelle. Il la dirige depuis des décennies et lui dit, « Vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Je connais votre caractère. Je connais vos esprits charnels, car il est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur et servez des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, nous servirons le Seigneur. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Maintenant, reprenez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons le Seigneur notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit ce jour-là une alliance avec le peuple, et il établit à Sichem une statue et une ordonnance. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la plaça sous un chêne qui était près du sanctuaire de l'Éternel. Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre nous servira de témoin, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. C'est pourquoi elle vous servira de témoin, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Josué laissa partir le peuple, chacun dans son héritage. Après cela, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Il a servi Dieu pendant plus d'un siècle. Il a conservé cette force que Dieu lui avait ordonné de garder. Il a essayé de l'enseigner aux Israélites charnels jusqu'à sa mort. Ce sont des récits célèbres, que vous regardiez l'histoire moderne d'Israël, les présidents modernes d'Israël ou, dans ce cas, un grand homme de Dieu qui a conduit Israël en terre promise. Des récits célèbres, qui viendraient facilement à l'esprit de chacun d'entre nous, mais c'est avec ces récits célèbres à l'esprit et bien d'autres. Vous pouvez penser à d'autres, Daniel dans la fosse au lion, Meshach, Shadrach et Abednego. Autant de récits célèbres dans lesquels nous pouvons puiser de la force, qu'ils soient bibliques ou historiques, ou qu'il s'agisse de personnes que vous connaissez dans votre vie. Mais c'est en pensant à ces récits célèbres que je vais citer une phrase que j'ai entendue récemment. Elle n'est attribuée à personne, mais elle m'a fait penser à nous, mes frères. Elle m'a vraiment fait penser à nous. Les personnes les plus fortes que je connaisse sont celles qui gagnent des batailles dont nous ne savons rien. Les personnes les plus fortes que je connaisse sont celles qui gagnent des batailles dont elles ne savent rien. Nous sommes un peuple qui, dans un sens, a commencé à la Pentecôte il y a 80, 31, presque 2000 ans, et nous célébrerons la Pentecôte demain ici. Elle sera dans notre rétroviseur si nous sommes sur le terrain. Depuis lors, l'Église de Dieu a été écartée, perdue dans l'histoire, persécutée, méprisée, tournée en dérision, mais en fin de compte, elle a tracé son chemin jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Un peuple relativement peu connu, un petit troupeau qui attend le royaume de Dieu. Nous écrivons tous un document qui sera un jour l'histoire des âges, qui sera un jour l'étoffe de la légende, mais pour l'instant, nous sommes inconnus. Nous sommes ceux qui gagnent des batailles dont les autres ne savent rien. Nous menons dans nos vies personnelles les batailles les plus importantes du monde. L'éternité est en jeu. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous aideront par la suite. Nous ne sommes peut-être pas célèbres aujourd'hui, mais ce que nous faisons dans notre vie personnelle, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle, vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie personnelle, mais ce sont les batailles les plus importantes qui se livrent sur Terre en ce moment. Tout le monde traverse quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler du développement d'un état d'esprit invincible à travers ces batailles. Développer une force d'esprit qui nous portera à travers les batailles auxquelles nous sommes tous confrontés. Dieu a simplement ordonné à Josué, « Sois fort ». C'est une grande partie de la détermination à être fort. Il y a un état d'esprit invincible que nous pouvons développer, et aujourd'hui nous allons parler de quelques-unes des façons de développer cet état d'esprit. Nous vivons tous des choses qui sont propres à notre situation. Proverbe, chapitre 14. Proverbe 14. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne se mêle pas de sa joie. Je ne peux pas savoir ce que vous vivez, vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Peut-être que nous le savons un peu en principe, mais si vous êtes comme moi, Il y a des moments où les épreuves vous semblent extrêmement pénibles, et vous vous en sortez, mais vous seul savez vraiment ce que vous ressentez. Vous êtes le seul à connaître la dynamique en jeu dans ces circonstances. Le cœur connaît sa propre amertume. C'est une question personnelle. Tout le monde traverse une épreuve lorsqu'il s'agit de forger son caractère. C'est ainsi que nous comprenons le processus de formation du caractère. Si les temps sont bons, ils deviendront mauvais, Ecclésiaste, chapitre 7. On ne sait jamais ce qui nous attend, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux, mais au jour de l'adversité, réfléchis. Dieu a opposé l'un à l'autre, afin que l'homme ne trouve rien après lui. En d'autres termes, Dieu veut nous faire deviner. Il a créé un environnement de stress, un environnement d'épreuves et de tribulations afin que nous puissions vaincre et grandir. C'est pourquoi Christ a été tenté en tout point. On pourrait dire qu'une partie de la raison pour laquelle il était qualifié pour être notre sauveur est qu'il a dû surmonter tant de choses. Il s'est forgé un caractère. Plus nous surmontons de difficultés, plus nous nous forgeons un caractère. Les choses peuvent surgir de nulle part quand on s'y attend le moins. Il y a une semaine ou deux, ma femme et moi avons dîné au restaurant. Après le dîner, il y avait une sorte de magasin de bonnes affaires de l'autre côté de la rue, alors j'ai voulu y aller et voir si nous pouvions y trouver quelque chose d'utile. Nous sommes entrés, nous venions de déguster un bon repas. En sortant, j'ai pris un cure-dent et je me suis curé les dents. Nous sommes entrés et, au bout de 30 secondes ou d'une minute, nous sommes passés devant un chariot de supermarché, et il y avait cela, quelque chose qui fouillait à l'intérieur. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. En fouillant à l'intérieur, je me suis demandé si c'était un furet. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ma femme m'a dit qu'il y avait des singes à l'intérieur. Je me dis, des singes ? Je regarde. Et, bien sûr, il y a de minuscules singes avec des couches à l'intérieur du caddie. Les gens m'ont dit qu'il s'agissait de ouistiti. Les gens se pressaient autour de ces singes. Et il y avait quelques cacahuètes dans le fond du caddie, et j'ai demandé à la dame si les singes les avaient choisis ou si c'était vous qui les aviez choisis. Elle m'a répondu que non, c'était nous qui les avions choisis. Très curieux, tout un groupe de personnes était autour de ces singes, mais pour une raison quelconque, ils se sont fixés sur moi. L'un d'entre eux a rampé sur le côté du caddie et a commencé à me fixer. Leur visage à la taille, je ne sais pas exactement, d'une pièce de 25 cents, et leur corps a peut-être la taille d'un petit lapin, et ils ont leur queue, c'est un animal très étrange. L'un d'eux s'est approché et s'est mis à me fixer intensément comme cela, en plein dans le visage. Il voulait peut-être mon cure-dent ou quelque chose comme cela. Il y avait plein d'autres personnes à regarder, c'est pourquoi j'ai parlé du cure-dent. Puis l'autre s'est approché et a rampé le long de la poignée du chariot comme s'il s'agissait d'une branche d'arbre, s'est approché encore plus près et a commencé à me regarder. Je veux dire, je regarde. Je suis aussi intéressé par eux qu'ils le sont par moi, et la chose a éternué en plein dans mon visage. Je me suis dit que j'étais en train de déguster un bon repas et que je pourrais être le patient zéro de la prochaine pandémie. Toutes ces pensées me traversent l'esprit, ce singe. Alors j'ai remercié les gens et j'ai continué mon chemin. Ma femme savait que je n'aimais pas cela, mais j'ai été très gentil avec les gens, je les ai remerciés, et ainsi de suite. On ne sait jamais ce qui va sortir de nulle part. On ne sait jamais ce qui va se passer. Heureusement, je n'ai développé aucun des horribles symptômes dont j'ai lu qu'il pouvait apparaître si un singe éternuait sur vous. J'ai fait des recherches et je ne suis plus contagieuse, non, Je n'ai jamais été contagieuse, je vais bien. Je raconte cette histoire pour illustrer le fait que l'on ne sait pas ce qui va se passer. J'aurais pu contracter la variole du singe ou Ebola ou quelque chose du genre, heureusement je ne l'ai pas fait. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Une difficulté, une épreuve, une attitude peuvent surgir et vous obliger à vous battre. Une petite situation peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus important qu'elle n'aurait dû l'être. Vous savez de quoi je parle. Une petite offense peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle n'aurait dû l'être, ou vous faites une montagne d'une taupinière dans votre esprit à cause d'une peur, peut-être au travail, ou peut-être un singe éternue sur vous et vous craignez de mourir. Je ne craignais pas de mourir, je m'amusais là-bas. Quoi qu'il en soit, les choses sortent de nulle part, mais elles sont là pour une raison, elles sont là pour forger le caractère. Lorsque nous sommes confrontés à cela, nous sommes les gens, mes frères, nous sommes les gens qui gagnent les batailles. Nous sommes ceux qui doivent conquérir. Nous sommes ceux qui doivent entrer dans une situation avec un état d'esprit invincible et vaincre, Proverbe 24. La clé est de développer cet état d'esprit invincible avant que les situations ne se présentent. Proverbe 24. 10. Si tu t'évanouis au jour de l'adversité, écrit Salomon, ta force est peu de chose. L'implication est que nous devrions être assez forts pour affronter les jours et les situations difficiles, pour ne pas nous évanouir, pour rester debout. Il y a des moments où nous nous évanouissons et un homme juste tombe cette fois et se relève, ce n'est pas le sujet ici, mais l'idée est d'être assez fort pour que lorsque l'épreuve arrive, nous la passions, et avec un peu de chance avec brio. C'est cet état d'esprit invincible dont nous parlons aujourd'hui qui nous permettra d'obtenir ce genre de succès. Première clé pour développer un état d'esprit invincible. Pour développer un état d'esprit invincible, nous devons nous rappeler que Dieu travaille à travers nous. C'est très simple, mais cela doit être au premier plan de nos pensées tout au long de notre vie. Nous devons nous rappeler que Dieu travaille à travers nous pour développer un état d'esprit invincible. Il est très facile de faire le parallèle avec le physique. Combien de personnes ont essayé de déplacer seul un meuble trop lourd? Soit vous vous blessez, soit vous ne pouvez pas le déplacer, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une paire de mains supplémentaires. Vous avez besoin de renfort, en quelque sorte. Dieu a toujours voulu qu'il soit notre aide, qu'il nous accompagne dans ces situations difficiles, qu'il nous donne la force nécessaire pour les surmonter. Nous ne sommes pas obligés d'y arriver par nos propres moyens, et je dirais que le premier pas vers le développement d'un état d'esprit invincible est de garder cela en tête et au centre de notre esprit. Se souvenir que Dieu travaille à travers nous. Reportez-vous au chapitre 1 de la Genèse. Genèse 1, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, et il dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent. » Dieu fit donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Il s'agit là de la création physique. Nous ressemblons à Dieu, en quelque sorte. Nous avons des mains. Nous avons un visage. Nous avons des yeux. Nous avons des oreilles. Nous avons un nez. Nous avons certaines capacités de leadership, comme le montre ce verset. Nous avons un esprit créatif, mais ce n'était que le début de l'œuvre qu'il faisait en nous. Cette œuvre qu'il accomplit à travers nous. Il voulait que nous poursuivions des objectifs bien plus importants. Il voulait que nous développions sa nature même, et le seul moyen d'y parvenir, c'est qu'il travaille à travers nous. Nous ne pouvons pas développer la nature de Dieu si nous ne nous soumettons pas à lui et s'il ne travaille pas à travers nous. Dans le chapitre 6 de Matthieu, les personnes qui ont le plus de principes dans ce monde ne développent pas le caractère de Dieu. Dieu ne travaille pas en eux. Il y a un avantage à vivre une vie juste selon la mode du monde. Il y a un avantage à essayer de faire le bien, mais Dieu ne développe pas son caractère, sauf chez ceux qui mènent ses batailles. Sauf chez ceux qui font partie de son Église. Sauf chez ceux qu'il forme en vue d'un grand dessein futur. Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Christ, et sa justice. » Pas seulement le royaume, mais le caractère de Dieu, la justice de Dieu. Ne vous préoccupez donc pas du lendemain, car le lendemain se préoccupera lui-même de ce qu'il fait. Le mal d'aujourd'hui suffit. Nous ne faisons pas cela tout seul. Dieu travaille à travers nous. Si vous pensez aux épreuves, si vous pensez à ces batailles dont nous parlons, l'une des premières personnes qui vous vient à l'esprit est probablement Job. Job, allons à Job 14. Qu'est-ce qui a permis à Job de traverser cette épreuve? Qu'est-ce qui a donné à Job l'état d'esprit invincible dont il avait besoin pour, en fin de compte, traverser de grandes épreuves et apprendre certaines leçons? Qu'est-ce qui a finalement permis à Job d'endurer ce que Dieu a décidé qu'il devait endurer? Que Dieu a permis à Satan d'infliger à Job? 14 ans. En fait, Job 1 pour commencer. S'agit-il de la richesse de Job? Était-ce sa réussite en tant qu'être humain dans ce monde? Job 1, 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 bœufs, 500 ânes, et une très nombreuse famille, de sorte que cet homme était le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Une réussite extraordinaire. S'est-il appuyé sur cela lorsque le diable l'a attaqué presque de plein fouet? Chapitre 14. Il reconnaît la situation. 14. 1. L'homme né d'une femme a peu de jours et il est plein d'ennuis, surtout lorsqu'il est confronté à quelque chose comme ceci, il sort comme une fleur et il est coupé. Il sort comme une fleur et il est coupé. Il s'enfuit comme une ombre, et il ne subsiste pas. Ouvrez-vous les yeux sur un tel homme, et m'amenez-vous en jugement avec vous. Il demande, qui peut faire sortir un objet pur d'un objet impur? Pas un seul. Tu vois que ses jours sont fixés, que le nombre de ses mois est chez toi. Tu lui as tracé des limites qu'il ne peut franchir. Détourne-toi de lui, afin qu'il se repose, jusqu'à ce qu'il ait accompli sa journée comme un mercenaire. Car, si un arbre est abattu, on peut espérer qu'il repoussera, et que son jeune rameau ne s'éteindra pas. Si sa racine vieillit dans la terre et si sa souche meurt dans le sol, il bourgeonnera par l'odeur de l'eau et produira des arcs comme une plante. Mais l'homme meurt et dépérit, oui, l'homme rend l'âme et où est-il? Il dit que l'homme n'est rien dans l'ordre des choses. L'homme n'a pas de force dans l'ordre des choses. L'homme n'est ici qu'un jour dans le grand ordre des choses. Il se couche et ne se lève pas jusqu'à ce que les cieux disparaissent, il ne se réveillera pas et ne sortira pas de son sommeil. Oh! Si tu me cachais dans la tombe, si tu me gardais secret jusqu'à ce que ta colère soit passée, si tu me fixais un temps déterminé et si tu te souvenais de moi. Si un homme meurt, revivra-t-il? J'attendrai tous les jours du temps qui m'est assigné, jusqu'à ce que vienne mon changement. Voici la clé, voici la clé. Il se réjouissait de la résurrection, mais voici ce qu'il a ajouté à cela. Vous appellerez et je vous répondrai, vous aurez le désir de l'œuvre, c'est-à-dire de l'action ou du produit de vos mains. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans nos vies. Pour développer un état d'esprit invincible, nous devons nous rappeler que Dieu travaille à travers nous. Imaginez que Job ait perdu de vue ce fait à travers cela. Non, il savait que Dieu accomplissait une action. Dieu construisait un produit dans sa vie. Qu'en est-il de Paul? Paul a traversé beaucoup d'épreuves, 2 Corinthiens 12. Cet état d'esprit caractérise, je dirais, tous les plus grands serviteurs de Dieu et doit être le nôtre, mais nous pouvons toujours le cultiver davantage et le faire grandir. Dans la deuxième partie de l'épître aux Corinthiens, Paul posait des questions sur son état de vision, son épine dans la chair, et Dieu lui a dit dans la deuxième partie de l'épître aux Corinthiens, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Paul savait que je suis un être humain physique et que je dois m'en remettre à Dieu. Sa force se manifeste dans ma personne lorsque je suis faible. Il a dû l'apprendre et l'accepter. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes infirmités, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour l'amour de Christ, car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que Dieu agit en moi, pourrions-nous ajouter. Philippiens, le même Paul ici, Philippiens. Comment a-t-il encouragé les frères de Philippe? Philippiens, chapitre 1 et verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu à chaque fois que je me souviens de vous, dans chacune de mes prières, pour toutes les demandes que vous faites avec joie, pour la communion que vous avez eue avec l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à présent, persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour du Christ. » Il y a eu un moment où Dieu a commencé à travailler en nous, et il ne cesse jamais ce travail. Il ne cesse de l'accomplir jusqu'à ce que nous soyons complets, jusqu'à ce que nous soyons prêts à être changés, quel que soit le moment où cela se produit dans son calendrier. Nous comprenons que c'est différent pour nous que pour les frères des temps passés, mais c'est étonnant. Il y a un travail qui a commencé lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. On peut discuter du moment où l'Esprit de Dieu a commencé à travailler en nous, mais il a commencé sérieusement lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, et ce travail ne changera pas ou ne se terminera pas avant que nous entrions dans la famille de Dieu. La clé pour avoir un état d'esprit invincible, pour savoir que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire en nous. Chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui est conforme à son bon plaisir. Il travaille en nous, mais ce n'est pas un travail amorphe, non. Il nous inspire littéralement, si nous nous rapprochons de lui, il nous inspire à faire sa volonté et son bon plaisir. Il ne nous laisse pas deviner ce qu'il en est. Si nous le cherchons, il promet d'accomplir cette œuvre en nous inspirant à faire sa volonté et son bon plaisir. Faites tout sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, fils de Dieu, sans reproche au milieu d'une nation tortueuse et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, annonçant la parole de vie, afin que je me réjouisse au jour du Christ, car ce n'est pas en vain que vous avez couru, ni en vain que vous avez travaillé. Peut-être avons-nous l'impression de ne pas savoir ce que Dieu attend de nous. Peut-être sommes-nous comme Paul sur le chemin de Damas, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, pourrait-on demander. 1 Thessaloniens, Paul est de nouveau ici, 1 Thessaloniens, chapitre 2. C'est encourageant, c'est la clé pour développer un état d'esprit invincible, pour reconnaître que cet être est à l'œuvre en nous et qu'il veut que nous réussissions. 1 Thessaloniens 2, 11. Vous savez que nous avons exhorté, consolé et recommandé à chacun de vous, comme un père à ses enfants, de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçue non comme une parole d'homme, mais comme la vérité. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes qui se trouve sur nos genoux. C'est la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. La parole de Dieu travaille avec son esprit qui est en nous ou qui travaille avec nous si nous ne sommes pas encore baptisés, et il est capable de nous communiquer ce qu'il attend de nous. Il est capable de nous faire bouger avec son esprit et de nous montrer ce qu'il veut nous montrer dans sa parole tant que nous étudions sa parole. Lorsque nous venons au culte du sabbat, nous entendons sa parole. Nous entendons sans doute des choses que nous pouvons appliquer pendant la semaine. Peut-être que si nous avons l'impression de ne pas savoir ce que Dieu attend de nous, nous devons passer plus de temps à essayer de discerner ce qu'il attend de nous en regardant dans sa parole. Elle agit efficacement en nous, mais seulement si nous prenons le temps de la regarder. Seulement si nous prenons le temps de la lire. Proverbes, chapitre 3. Il s'agit d'une promesse. Proverbes 3 et verset 1. Mon fils, n'oublie pas ma loi, ce qui implique de lire ces lois, mais que ton cœur garde mes commandements pour la durée des jours et la longévité, en fin de compte la vie éternelle, et ils t'apporteront la paix. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. C'est ainsi que tu trouveras grâce et bonne intelligence devant Dieu et devant les hommes. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Il fera le travail, pourrions-nous dire, dans votre vie. Il guidera nos vies. Hébreux 13. Deux autres passages sur ce premier attribut d'un état d'esprit invincible. Hébreux 13. C'est de Dieu qu'il s'agit. Il ne fait rien à moitié. Lorsqu'il entreprend quelque chose, il le fait de toutes ses forces, comme nous sommes tenus de le faire. Il n'est donc pas étonnant que les Hébreux 13 et 20 disent ceci. Le Dieu de paix qui a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rendra parfait en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté. Nous savons qu'il inspire son œuvre en nous. Nous savons qu'il nous inspire même la volonté d'accomplir son œuvre, mais la barre est très haute. Il dit que ce n'est pas seulement que je veux faire mon œuvre en vous, mais que je veux parfaire mon œuvre en vous. Il a de grandes espérances pour nous. Il veut vous rendre parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, en travaillant en vous ce qui est agréable à ses yeux. Cela prend toute une vie, mais il est étonnant qu'il investisse autant de temps et d'énergie dans la chair, qu'il nous veuille dans sa famille. C'est la seule façon d'y parvenir, mais il doit travailler à travers nous. Nous devons nous soumettre à lui. Nous devons faire tout ce que nous pouvons, mais reconnaître que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, ce qui est le premier élément d'un état d'esprit invincible. Même Christ a reconnu que c'est le Père qui fait l'œuvre en Jean 14. Deuxième clé d'un état d'esprit invincible. Nous ne devons jamais perdre de vue la rareté de notre vocation. Nous ne devons jamais perdre de vue la rareté de notre appel à développer, à maintenir un état d'esprit invincible. Il peut être facile d'oublier à quel point cet appel est impressionnant, en particulier pour les frères qui sont dans l'Église depuis des années ou des décennies, voire plus. Les nouveaux frères voient que c'est extraordinaire. Nous pouvons perdre cela si nous ne faisons pas attention. C'est un appel étonnant et incroyablement rare qui nous a été donné. L'une de mes scènes de film préférées, que je n'ai pas vue depuis longtemps, est celle de ce type, dont je ne vous dirai pas le nom, qui parle à une dame et lui demande « Quelles sont mes chances ?» Elle répond « Pas très bonnes. » Il dit « Une chance sur 100 ?» Elle répond, plutôt une sur un million. Vous voyez son visage déprimé se transformer en sourire, ce qui vous fait dire qu'il y a une chance. Un sur un million. Eh bien, mes frères, je dirais que nos chances d'être parmi les 144 000 sont beaucoup, beaucoup plus élevées qu'une chance sur un million. Vous pouvez faire divers calculs, mais à titre indicatif, nous nous contenterons d'un joli chiffre rond. Pour être un membre baptisé de le petit troupeau, il faut compter environ une chance sur 5 millions, rien que dans l'état actuel du monde. Une chance sur 5 millions. Une chance sur 5 millions. Je voulais savoir combien de personnes une personne moyenne rencontre au cours de sa vie. On peut demander n'importe quoi à Internet aujourd'hui, et voici une réponse qui ne provient de rien d'autre que de Answers.com. Le nombre de personnes qu'un individu rencontre au cours de sa vie peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que les normes culturelles, les activités sociales et les préférences personnelles. Cependant, des études ont estimé qu'une personne moyenne rencontre environ 80 000 personnes au cours de sa vie. Ce nombre comprend des interactions allant de brèves rencontres à des relations plus importantes, et peut être influencé par des facteurs tels que les choix de carrière, les expériences de voyage et les cercles sociaux. Tout le monde est un peu différent, mais en moyenne, une personne rencontre 80 000 personnes au cours de sa vie. Si l'on veut pousser le calcul un peu plus loin et s'amuser avec, il faudrait environ 62 vies pour rencontrer une autre personne appelée par Dieu dans le petit troupeau. Imaginez que vous viviez 62 vies dans toutes les interactions aléatoires que vous avez avec les gens, il vous faudrait 62 vies en moyenne avant de rencontrer une autre des personnes qui sont assises dans cette salle. C'est dire à quel point le petit troupeau est petit. C'est dire à quel point cette vocation est exclusive. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs que les gens du monde. Ils auront certainement une chance d'accéder à la vie éternelle, mais être ici, de ce côté-ci du royaume, c'est aussi rare que possible, et nous ne devons jamais perdre cela de vue. Garder cela à l'esprit nous aidera à développer cet état d'esprit invincible. Cela nous encouragera à maintenir cet état d'esprit invincible. Dieu a des vues sur vous et moi depuis très, très, très longtemps. Romains 8, Romains chapitre 8. Lorsque nous venons au service du sabbat, que nous soyons au quartier général ou sur le terrain, nous devrions regarder les frères et dire, « Oh là là, Dieu a trié sur le volet cette personne ou ces personnes. Il les a choisis. Dieu voit quelque chose d'extraordinaire dans ces personnes. Il devrait renforcer notre amour les uns pour les autres lorsque nous voyons les autres comme Dieu les voit dans cette voie étroite. » Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons qu'elle concourt au bien parce que Dieu fait une œuvre en nous. Il accomplit quelque chose en nous, comme nous l'avons vu dans le premier point. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. En outre, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, et il les glorifiera en fin de compte. Que répondrons-nous à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu agit en nous, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Demande Paul. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses? En d'autres termes, s'il était prêt à perdre son fils unique pour nous, il est évident qu'il nous accompagnera jusqu'à la fin, mais remarquez qu'il nous a connus à l'avance. Il nous a prédestinés. Il veut que nous soyons le premier-né d'une multitude de frères. C'est un appel très, très, très rare, et nous ne devons jamais le perdre de vue. Imaginez que vous expliquiez aux grands de ce monde, aux technocrates par exemple, un groupe de personnes pour illustrer votre propos. Imaginez que vous leur expliquiez ce qu'on appelle le royaume de Dieu et ce que cela signifie d'entrer dans le royaume, de naître dans le royaume, de recevoir l'Esprit Saint de Dieu et, finalement, de devenir Dieu. Disons que vous vous tournez vers Matthieu 13 et que vous leur expliquez qu'il s'agit d'une perle de grand prix. C'est comme un trésor caché dans un champ. Ces gens qui possèdent d'énormes milliards de dollars, regardez Matthieu 16, d'énormes milliards de dollars, ont reconnu que c'était une chose réelle qu'ils pouvaient atteindre. Matthieu 16 et verset 24. Christ dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. En effet, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou que donnera-t-on en échange de son âme? Il s'agit donc de certaines des personnes les plus riches de la planète, qui pourraient se dire, « D'accord, je peux avoir la vie éternelle, je peux vivre pour toujours et je peux devenir Dieu, mais il y a des conditions, je dois renoncer à tout mon argent, je dois me soumettre à cela, prendre cette croix, ce pieu, et suivre Dieu. » Disons qu'ils l'ont compris d'un point de vue académique, peut-être qu'ils l'envisagent d'un point de vue commercial. Cela a-t-il un sens? Je suis la crème de la crème sur cette terre, je peux peut-être me séparer de certains de mes biens et obtenir cette chose appelée la vie éternelle. Disons qu'ils ont une compréhension académique de la chose et qu'ils veulent en faire partie. Les plus grandes personnes à marcher sur la terre à l'heure actuelle selon les critères du monde, ils veulent en faire partie. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Jean chapitre 6. Il s'agit d'un appel sur invitation seulement. C'est dire à quel point il est exclusif. Il n'est pas ouvert à n'importe qui. C'est incroyable ce qui nous a été offert et nous devons toujours le garder au centre de nos pensées. Jean 6, 38. Car je suis descendu au ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici quelle est la volonté du Père qui m'a envoyé. De tout ce qu'il m'a donné, je ne perdrai rien, mais je le relèverai au dernier jour. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il disait que je suis le pain descendu du ciel. Ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment se fait-il donc qu'ils disent que je descends du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Tout le monde peut finalement avoir la vie éternelle. Tout le monde se verra offrir la vie éternelle, mais cet appel, non. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Tu as été trié sur le volet. J'ai été choisi pour une raison ou une autre. Dieu voit quelque chose en chacun de nous. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Cela devrait nous inspirer profondément. C'est la clé du maintien de cet état d'esprit invincible. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 3. Selon que sa divine puissance nous a donné ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, il nous a été donné des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, par elles, vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. les plus grandes promesses possibles, nous y avons accès grâce à cet appel. Il n'est donc pas étonnant qu'au verset 10, Pierre dise « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous à rendre sur votre appel et votre élection, afin que nous puissions recevoir ces promesses impressionnantes. Car si vous faites ces choses, les choses qu'il a décrites juste avant, si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais, car une entrée abondante vous sera ménagée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revoyons constamment ces choses, frères, parce que c'est le genre de choses que nous devons garder dans notre tête. C'est pourquoi il dit au verset 12, « C'est pourquoi je ne néglige pas de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les sachiez, je ne vous dis rien que vous ne sachiez, je ne lisse rien que je ne sache, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime qu'il est bon, tant que je suis dans ce tabernacle, de vous exciter en vous rappelant. Pierre, Paul, tous ces hommes ont martelé ces choses, encore et encore, parce que c'est ce qui nous évite les ennuis. Lorsque nous avons été appelés, nous avons compris les vérités de Dieu. Nous avons été enthousiasmés par les vérités de Dieu. À la base, la définition d'un appel. Comprendre la parole de vérité afin de pouvoir être sanctifié par cette parole de vérité. Si nous n'y prenons pas garde, ce mécanisme peut se retourner contre nous. Hébreux, chapitre 2. Tout comme nous avons commencé à avoir les yeux ouverts et à comprendre les vérités de Dieu, si nous n'y prenons pas garde, cette même vérité peut s'éloigner de nous. C'est ce qui s'est passé au cours des 2000 dernières années. C'est arrivé à des personnes que vous et moi connaissons et aimons. Ils laissent ces précieuses vérités leur échapper au point de devenir si confus qu'ils quittent l'Église de Dieu et, dans certains cas, espèrent revenir un jour. Nous savons que Dieu a un plan beaucoup plus miséricordieux que nous ne l'avons jamais compris, mais vous pouvez perdre de vue ce précieux appel et cela peut avoir des conséquences dévastatrices. Hébreux 2, 1. C'est pourquoi nous devons prêter une attention plus soutenue aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas les laisser échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été inébranlable et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, si nous ne le prenons pas au sérieux, si nous ne l'apprécions pas, si nous n'en sommes pas reconnaissants, si nous ne le traitons pas avec le respect qu'il mérite, qui a d'abord été annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont écouté, qui a d'abord été annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont écouté. Dieu le rend aussi témoignage par des signes et des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, selon sa propre volonté. Car il n'a pas soumis aux anges le monde à venir dont nous parlons, mais il va nous le soumettre. C'est une vocation impressionnante. Nous ne devons jamais perdre de vue à quel point cet appel est important, merveilleux, spécial, unique et exclusif. Troisième clé pour développer un état d'esprit invincible. Nous devons nous rappeler, frères, que nous ne sommes jamais seuls. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Cela fera l'objet d'une mise en garde au point suivant, mais au départ, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Cela nous aidera à adopter cet état d'esprit invincible. 1 Jean 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous a été manifesté en ceci que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est en cela que consiste l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous ait aimé et qu'il ait envoyé son Fils pour qu'il soit la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous recevons l'exemple ultime de ce que le Père en Christ a fait pour nous. Et ils nous disent de prendre cet exemple à cœur. Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimez Dieu les uns dans les autres. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est incroyable. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est la preuve que Dieu habite en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu habite en nous, et son amour est parfait en nous. L'amour peut être un sujet assez amorphe. C'est pourquoi Jean, au chapitre 3, explique en détail comment exercer cet amour. 1 Jean 3, 10. C'est en cela que se manifestent les vrais enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car c'est là le message que vous avez entendu dès le commencement, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas comme Caïn, qui était du nombre des méchants, et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère justes. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Il est extrêmement important de s'aimer les uns les autres. Et cela va dans les deux sens, si nous aimons les autres et que les autres nous aiment. C'est une certaine colle qui nous aide tous. Un bénéfice mutuel. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en nous. C'est ainsi que nous connaissons l'amour de Dieu, car il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous ne devons pas mourir de la même manière que Christ, mais nous devons nous servir les uns les autres. Nous devons donner notre vie pour les frères. Mais celui qui possède les biens de ce monde, qui a un peu de substance, et qui, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles de compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si nous voyons que quelqu'un a besoin de quelque chose et que nous sommes en mesure de l'aider, ne refusez pas le bien à un homme quand il est en votre pouvoir de le faire, comme le dit le proverbe, je le cite approximativement. Mais comment l'amour de Dieu habite-t-il en lui, s'il voit que quelqu'un est dans le besoin et qu'il ne l'aide pas? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue, mais en acte et en vérité. Il faut agir, mais il ne s'agit pas nécessairement de donner à quelqu'un quelque chose de physique dont il a besoin. Peut-être que quelqu'un se sent seul. Organisez peut-être une sortie pour que quelqu'un n'ait pas à lutter contre la solitude. Qui sait? Vous pouvez, en partie, sauver leur vie éternelle. Cela peut être aussi simple que cela. Ou signer les cartes après les services. Peu importe ce que c'est. Cherchez des domaines où nous pouvons exprimer notre amour en faisant des choses pour les autres. Cela transformera la vie des autres et la nôtre. Mais il ne s'agit pas de se contenter de faire des gestes, il faut que ce soit sincère. 1 Pierre, 1 verset 22. Après avoir purifié vos âmes et obéi à la vérité par l'esprit jusqu'à la sincérité, l'amour des frères, veillez à vous aimer les uns les autres d'un cœur pur, avec ferveur, c'est-à-dire avec intensité. Il s'agit d'une véritable attention, d'un véritable souci pour ces autres personnes très spéciales sur terre. Nous devons faire preuve d'amour envers tous les hommes, mais nous devons, en particulier, nous concentrer sur ceux qui font partie de la maison de Dieu, comme il est dit ailleurs. Nous sommes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Éphésiens 4. Parfois, il s'agit simplement de faire avec les choses. Les offenses vont se produire lorsque nous sommes dans la forme humaine, et parfois il s'agit simplement d'aller de l'avant. Il s'agit de ne pas laisser les montagnes se transformer en taupinières. Éphésiens 4 et verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec longanimité, en vous supportant les uns les autres. Supporteur signifie se supporter les uns les autres. Se supporter les uns les autres dans l'amour. Rouler avec les choses, tous autant que nous sommes. Les petites offenses ou les malentendus, nous devons les accepter. Maintenant, si quelqu'un crache de l'hérésie pendant les services du sabbat, je ne préconise pas de s'en accommoder, mais s'il s'agit d'un petit malentendu ou de quelque chose de ce genre, l'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est simplement de s'abstenir, de le supporter. S'efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous êtes appelés dans l'espérance de votre appel. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. En d'autres termes, il dit, préservez à tout prix cette unité d'amour dont nous jouissons tous. C'est l'une des grandes façons d'aimer les frères. Nous pourrions continuer longtemps sur ce point, mais nous ne sommes jamais seuls. L'une des clés pour développer cet état d'esprit invincible, mais voici la mise en garde que j'ai promise. Pour développer un état d'esprit invincible, nous devons nous rappeler que nous sommes absolument seuls. Cela semble contradictoire, mais vous voyez probablement où je veux en venir. Nous devons nous rappeler que nous sommes absolument seuls. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Paul a écrit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, Philippiens 2, 12, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Le service, la communion et l'exercice de l'amour font tous partie de cet appel, mais nous devons travailler à notre propre salut, qui est exclusivement entre nous et Dieu. La communion et le service ne peuvent en aucun cas pallier l'absence de relation avec le seul être qui puisse nous donner le salut. Nous sommes absolument seuls. Mais dans un sens encourageant, nous sommes absolument les capitaines de notre propre navire. Dieu dit, « Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui agit en vous. » Verset 13, que nous avons lu plus tôt, tant pour vouloir que pour faire ce qui est conforme à son bon plaisir. Puis le reste du chapitre, comme nous l'avons lu précédemment. C'est ce que dit 2 Jean, 2 Jean 1. Nous ne sommes jamais seuls, mais nous travaillons aussi à notre propre salut avec crainte et tremblement, c'est le revers de la médaille. 2 Jean 1, 7. Beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est un séducteur et un antéchrist. Veillez sur vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons fait, mais que nous recevions une pleine récompense. C'est étonnant. C'est entre nous et Dieu. Nous travaillons à notre propre salut. Galates y montre l'interaction entre la façon dont nous interagissons avec les frères et la façon dont nous interagissons avec Dieu. Galates 6. Je devrais dire un élément de cette interaction. Frères et sœurs, si quelqu'un est surpris par une faute, verset 1, vous qui êtes spirituels, rétablissez-le dans un esprit de douceur, en vous considérant vous-même, afin de ne pas être tenté à votre tour. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un se croit quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun prouve ce qu'il fait, et c'est alors qu'il se réjouira en lui-même et non en un autre. Car chacun portera son propre fardeau. Or, Ce que nous faisons a des conséquences très directes sur notre vie. Que celui qui est instruit dans la parole communique à celui qui enseigne toutes les bonnes choses. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de bien faire, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous fatiguons pas. Si nous continuons à reconnaître que Dieu travaille en nous, si nous continuons à nous soumettre à lui, si nous continuons avec cet état d'esprit invincible, comme nous l'appelons, à travers ce message. Christ a dit, personne ne peut nous arracher de sa main ou de la main du Père. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Cela devrait être encourageant et stimulant. Nous avons le contrôle total. Personne ne peut nous arracher à ce mode de vie. Si nous sommes une femme, nous ne sommes pas obligés de suivre notre mari hors de l'église ou vice-versa. Personne d'autre que Dieu et nous-mêmes ne détermine notre avenir éternel. Profondément encourageant, profondément stimulant, essentiel pour développer un état d'esprit invincible. De grandes forces sont dressées contre nous, les trois ciments, Satan, la société et le moi. Nous devons garder cela constamment à l'esprit, mais aussi reconnaître que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour surmonter chaque obstacle, ce qui est le dernier élément du développement d'un état d'esprit invincible. 2 Corinthiens 10. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour surmonter tous les obstacles. Il ne s'agit pas d'un message sur les 5 outils de la croissance chrétienne, mais cela est bien sûr directement lié. 2 Corinthiens, 10e et 3e verset. Que ce soit Satan qui essaie de détruire nos vies, que ce soit nos cœurs trompeurs qui travaillent contre la loi de Dieu en nous, que ce soit ce monde maléfique actuel, nous sommes tout à fait capables de surmonter chacun de ces trois ciments, comme on les appelle souvent. 2 Corinthiens 10, 3. En effet, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les imaginations et toutes les choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous disposons d'armes puissantes. Elles sont, bien sûr, étroitement liées aux 4 premiers éléments du développement d'un esprit invincible, mais nous disposons d'armes puissantes. Le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens en détaille quelques-unes, alors que nous commençons à conclure. Enfin, mes frères, verset 10, Éphésiens 6, 10. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ces armes puissantes qu'il nous donne. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. Prenez donc toute l'armure de Dieu, ces outils que Dieu nous donne, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et, après avoir tout fait, de pouvoir rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, et surtout prenant le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En priant toujours par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, et en veillant à ce qu'il en soit ainsi, avec toute la persévérance et les supplications nécessaires pour tous les saints. Quoi qu'il arrive, nous sommes capables de demander à Dieu plus d'Esprit Saint. Nous pouvons nous référer à sa parole et comprendre ce que nous devons faire ou conseiller, si la situation est particulièrement confuse. Nous pouvons prier pour être guidés. Nous sommes capables de jeûner si nous en avons besoin dans une situation donnée. Tout en exerçant l'esprit. Méditer sur ce que nous entendons. C'est essentiellement ce que nous faisons, nous méditons avant d'entrer dans une épreuve. Nous décidons de protéger notre esprit, de développer un état d'esprit invincible afin que, lorsque le jour de l'adversité arrivera, notre force ne soit pas faible. Si nous avons des lacunes dans l'un de ces domaines, il suffit de demander l'aide de Dieu. C'est aussi simple que cela. Il fait un travail en nous. C'est une boucle. Il veut nous aider. Il veut réaliser cela en nous. Nous ne sommes pas seuls. C'est aussi simple que cela. Père, j'ai besoin d'aide dans un domaine X, Y ou Z, et il promet de m'aider. Il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. C'est lui qui, en fin de compte, détermine et nous donne la force de vaincre. Frères et sœurs, nous développerons un état d'esprit invincible si nous gardons toujours à l'esprit que Dieu travaille en nous, premier point. Si nous ne perdons jamais de vue la rareté de notre vocation. Si nous nous rappelons que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons tout autour de nous des frères qui sont exactement dans la même situation, que nous aimons et qui nous aiment. Mais si, en même temps, nous nous rappelons que nous sommes absolument seuls dans la mesure où nous travaillons à notre propre salut entre nous et Dieu, et que cette relation est la plus importante que nous ayons, toutes les autres étant secondaires par rapport à cette relation avec Dieu. Et si finalement nous nous rappelons que malgré toutes les forces puissantes qui nous entourent et qui essaient de nous faire dérailler, de nous écraser dans ces épreuves, d'écraser la vie hors de nous, malgré tout cela, nous avons des armes puissantes qui ne nous feront jamais défaut, que Dieu nous donne. Si nous nous souvenons de ces choses, nous pouvons dire avec Paul, avec l'apôtre Paul, l'écriture suivante, la dernière écriture ici, Romains chapitre 8. Si nous nous souvenons de toutes ces choses, et vous pourriez en ajouter d'autres à votre propre liste, nous pouvons dire avec Paul ce qui suit. Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, quelles que soient les épreuves que nous traversons, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, l'épée. Comme il est écrit, c'est à cause de vous que nous sommes mis à mort tout au long du jour, que nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Sachez qu'en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, nous avons cet état d'esprit invincible et, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans Christ Jésus notre Seigneur. Frères et sœurs, avançons avec un état d'esprit invincible dans le peu de temps qu'il nous reste.